La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale. Voici les invités de ce numéro. Je salue d'abord Monique Iborra, ex-députée de la Haute-Garonne, soutien d'Emmanuel Macron. Et je salue Philippe Faureau, historien et universitaire, producteur de l'émission Les Fenêtres de l'Histoire sur Radio Présence. Bienvenue aussi à vous deux et merci d'avoir accepté de débattre ensemble. 10 jours après la mort de Quentin Derenque, tué à Lyon par de jeunes militants antifascistes proches de la Jeune Garde, Emmanuel Macron a convoqué mardi une réunion à l'Élysée pour, je cite, faire un point complet sur les groupes d'action violentes qui sévissent et ont des liens avec les partis politiques, quels qu'ils soient. Il était question d'y aborder la question d'éventuelles dissolutions dans le cadre d'une approche globale et sans lecture partisane d'un extrême ou de l'autre. Alors que Manuel Bompard, le député de la France Insoumise, a appelé à amplifier la riposte antifasciste malgré le drame de Lyon, il semble donc au sommet de l'État que l'on pointe autant les responsabilités des groupes d'extrême droite que d'extrême gauche dans la montée de la violence politique en France. Est-ce que vous considérez également que les risques d'actions violentes concernent au même degré les deux extrêmes de l'échiquier politique aujourd'hui, que des groupes aussi dangereux que la Jeune Garde existent à l'extrême droite et qui pourraient être liés à des partis politiques? Monique Iborra.
Bien, merci de nous avoir invités. Votre question est longue, alors je vais essayer d'être brève.
Courte.
Parce que ce qui est important, déjà, c'est de définir ce que sont les fascistes et les antifascistes.
Oui, pour qu'il y ait des antifascistes, il faut qu'il y ait des fascistes.
Oui, mais il faut savoir d'où ils viennent, qui ils sont, et je pense que nos concitoyens ne le savent pas vraiment. Ceci dit, je crois que ce drame épouvantable qui est arrivé, le meurtre de ce jeune Quentin, a finalement fait tomber un certain nombre de masques, et en particulier le masque de Mélenchon. Je crois qu'on se posait la question, il n'y a pas longtemps, de savoir s'il était d'extrême-gauche ou s'il ne l'était pas.
Oui, parce qu'il s'était offusqué qu'on ait pu classer la France insoumise à l'extrême-gauche.
Voilà. Et donc là, on voit bien quelle est sa stratégie, parce que c'est une stratégie, en effet. Et j'ai réfléchi, en effet, pourquoi pouvons-nous dire que Mélenchon est d'extrême-gauche ? En effet, il est, de mon point de vue, c'est ce que je défendais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il est d'extrême-gauche, il ne le renie pas de toute manière, et il est surtout un groupe politique qui a en effet des pieds dedans et des pieds dehors. Quand je dis les pieds dedans, il est dans l'institution, il est à l'Assemblée nationale, les groupes extrêmes ne le sont pas d'une manière générale, lui a... à l'Assemblée, on a pu le voir depuis 2024 en particulier, il a en effet des gens violents, des personnes violentes qui sont à la fois dedans et maintenant dehors, avec le jeune Raphaël Arnaud, qui est député d'Avignon.
De son vrai nom, Raphaël Archenon, je le précise, hein, c'est pas son vrai nom.
C'est même pas son vrai nom, c'est un nom d'usage, ce qui est assez étonnant à l'Assemblée nationale, et qui en plus a créé cette jeune garde, qui est un mouvement en tout cas, qui est violent. D'ailleurs, il y a sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo où on le montre, alors qu'il était candidat à Avignon. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui défend les fascistes, d'après lui, mais en tout cas avec violence. Donc, Mélenchon, aujourd'hui, dans sa stratégie, c'est pas excusé, bien sûr, la jeune garde, ils disent qu'ils ne sont pas violents, ce sont des gens qu'on est allé chercher et qui sont associés, finalement, à un parti politique. Donc là, je pense, honnêtement, que cette stratégie, c'est la sienne. Est-ce qu'elle est payante? Ça, c'est une autre affaire. Mais personnellement, je considère que Mélenchon et son groupe est extrémiste. L'histoire de Rassemblement National est tout à fait différente. Je pense qu'en effet, dans l'inconscient ou dans le conscient des gens, justement, avec son père, avec le père de Marine Le Pen, avec Le Pen, il y avait, la plupart des gens pensaient en effet que ce mouvement était un mouvement d'extrême droite. Il faut dire que, comme dit le Premier ministre, elle a fait quand même un certain ménage.
Mais d'ailleurs, elle-même a dit, moi j'ai viré tous les groupes fascistes qui pouvaient graviter autour du RN. Ce sont ses paroles à elle.
Hein. Elle ne les a pas virés tous, mais c'est vrai qu'elle a fait le ménage. Or, elle est aussi, ça se voit, dans la mesure où elle est à l'Assemblée nationale, complètement, si vous voulez, comment dirais-je...
Normalisé dans son comportement,
plus
dans
que normalisé, plus que normalisé, même sur le plan du vestiaire, même sur le plan du discours. Il n'empêche que, évidemment, reste aussi ce qu'elle défend, ce qu'ils défendent. Il faut regarder, il faut voir ce qu'ils défendent. Et que, d'autre part, il y a encore parmi eux, parmi son groupe, des gens qui se réclament pas ouvertement, mais qu'on pourrait cataloguer comme étant d'extrême droite. La dernière chose que je voulais dire à propos de ceci, c'est que les deux se nourrissent les uns les autres, les deux s'attendent à la présidentielle, et que donc, on va en parler sans doute, et que donc ces deux groupes veulent se retrouver ensemble. Il faut voir si on aura une offre politique qui fera que on aura plus de choix.
Alors, Philippe Faureau, concernant la question que je posais, est-ce que vous considérez aussi que les risques d'actions violentes aujourd'hui peuvent surgir des deux côtés, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, parce qu'il existerait des groupuscules d'extrême droite aussi dangereux que la Jeune Garde. C'était le sujet de cette réunion là qu'avait convoqué Emmanuel Macron à l'Élysée. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment? Et dans ce cas, est-ce que ces groupuscules d'extrême droite, s'ils existent, peuvent être liés ou proches de partis politiques, comme le RN par exemple?
Alors effectivement, je crois qu'il faut d'abord essayer de définir avec précision, et ça demande un peu de rigueur intellectuelle, ce que l'on appelle... Non pas l'extrême droite, mais les groupes fascistes et le fascisme.
Oui, parce que effectivement, ils se présentent comme antifascistes.
Oui, parce que il y a, si vous voulez, des personnes qui peuvent être d'extrême droite, mais qui ne se reconnaissent pas dans le fascisme. Vous pouvez être un militant de l'Action française, par exemple, depuis Charles Maurras jusqu'à nos jours, sans être effectivement fasciste, parce que l'Action française ne correspond pas à la définition du fascisme. Alors peut-être, justement, essayons de le définir.
Alors je vais dire pour nos auditeurs, parce que c'est important, que vous êtes un spécialiste de l'Italie fasciste, vous avez publié plusieurs ouvrages dessus, il y a un dictionnaire de l'Italie fasciste, et puis il y a l'Italie fasciste qui est paru également, donc vous connaissez très très bien le sujet. Juste pour situer d'où vous parlez.
Oui, merci. Alors, essayons de définir. D'abord, le fascisme, historiquement, est né au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais alors, il y a un premier paradoxe, c'est que si on regarde le premier fascisme, celui des faisceaux de combat en 1919, mais aujourd'hui, il serait qualifié finalement d'extrême gauche. Pourquoi? Il est pour le vote des femmes, dans une Italie où les hommes viennent à peine d'obtenir le suffrage universel masculin. Il est pour le renversement de la monarchie et pour des institutions républicaines. Il est contre les armées permanentes et le service militaire. Il veut éloigner finalement la sphère publique de l'Église. Enfin bref, le premier fascisme de 1919 est né en grande partie dans des milieux futuristes, anarcho-syndicalistes ou socialistes en rupture de banc, avec des nationalistes. Mais par contre, vous avez la violence. Parce que ce qui caractérise peut-être le fascisme, c'est le phénomène de la violence de rue. Et puis ensuite, vous avez, à partir, disons, clairement de 1921, vous avez une évolution qui va permettre de définir le fascisme de la manière suivante, me semble-t-il. D'abord, un système à parti unique. C'est une idéologie qui défend le parti unique. Le culte de la personnalité du chef, que l'on juge charismatique. Troisième élément... L'encadrement le plus serré possible avec un projet totalitaire de la société. Le parti doit encadrer l'italien, je dirais, pour reprendre une expression de Mussolini, je prends l'italien au berceau, je le rends à l'église au tombeau. Et donc, il y a un encadrement de la société. Autre élément, c'est le monopole de tous les éléments de presse. Tous les médias sont contrôlés. Autre élément capital... que vous ne retrouvez pas d'ailleurs partout dans l'extrême droite, c'est le culte de l'État. Il y a une statolatrie, on a pu dire qu'il y a une statolatrie. Avant-dernier élément, c'est la création aussi de l'homme nouveau. Il s'agit de créer un Italien nouveau, quelqu'un qui finalement serait en rupture avec ce qu'a été le passé des Lumières, le passé du libéralisme, etc. Et puis, il y a un dernier élément, mais qui viendra tardivement dans le fascisme italien, c'est la question raciale. La question raciale, l'antisémitisme, il y a eu un antisémitisme fasciste qui n'est pas présent de manière forte dans les années 20, mais qui va prendre de l'ampleur à partir des années 36-37 et surtout avec les lois antisémites de 38. Donc voilà les éléments, si vous voulez, qui me semblent permettre de définir le fascisme. À partir de là, une fois que l'on a défini le fascisme, j'ajouterai un dernier point, c'est que sur le plan historique, le fascisme en tant que système politique est mort en 1945. Il a été mortellement touché en 1943 avec la destitution du Duce, mais en tant que système politique, il disparaît en 1945.
Avec la mort de Mussolini.
Avec la mort de Mussolini et la défaite finale des fascismes. Par contre, ce qui n'est pas mort, c'est, et on peut en retrouver des éléments, parce que je pense que la définition que je viens de donner n'est pas valable pour même nos groupuscules d'extrême droite. Mais vous en retrouvez, sur le plan idéologique, certains éléments dans les groupuscules qui peuvent faire le coup de poing, parce que ce qui va, me semble-t-il, les qualifier vraiment, c'est la capacité d'une violence que normalement, les partis démocratiques rejettent.
Alors, selon vous, est-ce que ça existe en France aujourd'hui, dans la France de 2026 ?
Alors,
parce que c'est la question qui est posée.
Oui, cette violence, elle existe.
Le groupe de filles, Némésis, est-ce que pour vous, c'est que, ça n'hésite pas à le classifier à l'extrême droite, et même parfois le traiter de fasciste. Alors, est-ce que, selon vous, les critères sont remplis pour dire que le collectif Némésis est un groupe d'extrême droite fasciste?
Alors, je dois vous avouer ne pas les fréquenter énormément, et donc je ne connais pas avec précision toute l'idéologie. Je ne suis pas sûr qu'ils rentrent effectivement dans les critères que j'ai énoncés. Mais ils sont sans doute d'une extrême droite que je qualifierais d'un certain nationalisme, d'un certain élément identitaire. Mais il faudrait voir, par exemple, si ils adhèrent au culte du chef, quel est leur positionnement par rapport à un parti unique. Ont-ils un projet d'encadrement totalitaire d'une société ou des médias? Là, par contre, j'en suis moins sûr.
Oui. Oui. Monique Iborra.
À vous écouter, on pourrait dire, je pèse mes mots, Mélenchon est fasciste. Ben oui, excusez-moi, parce que franchement, dans la définition que vous dites, quand vous parlez, bon, le chef, Je passerai là-dessus parce que tout le monde sait à quel point il représente. Moi, je l'appelle le gourou d'ailleurs. Hein. Mais quand on voit comment ils sont organisés, son parti, ils le définissent non pas comme un parti démocratique, ils le définissent comme un parti collectif. Que d'autre part, la révolution, ils en parlent, elle s'appelle révolution citoyenne, mais elle est faite de violence, bien entendu. Et quand on les voit vraiment agir à l'Assemblée nationale, quand on les a vus agir de la manière dont ils agissaient, ils se sont calmés un peu maintenant, mais c'est ahurissant de violence. Quand on écoute Madame, comment s'appelle-t-elle, Rima Hassan, quand vous écoutez alors Madame Sofia
Chikirou.
Oui, pardon, Chikirou. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement.
Si, j'ai vu, c'était hallucinant.
Je n'ai jamais vu une haine pareille. Oui. Je me suis dit, bon, elle n'est pas dans son état normal.
C'est vrai, ça pouvait donner cette impression.
Ce n'est pas possible. Mais cette violence-là, Mélenchon et ceux qui sont autour de ils ne la dénoncent pas. Ce n'est pas vrai. Alors, finalement, j'étais toujours persuadée depuis quelques années, en voyant à la fois Mélenchon et le Rassemblement National, alors Bardella c'est encore autre chose, mais même Madame Le Pen, j'ai toujours été persuadée que Mélenchon favorisait la montée du Rassemblement National. Franchement, on avait bien l'impression qu'il voulait éliminer tout ce qui était au milieu, c'est-à-dire le centre, c'est-à-dire les partis... habituelle, de manière à se retrouver en face d'elle. Et je crois qu'en effet, la situation, c'est celle-là aujourd'hui. Est-ce que ce sera Bardella? Est-ce que ce sera Marine Le Pen? En tout cas, on est là, on est sur ces deux oppositions qui veulent se retrouver ensemble.
Alors, sur cet aspect polarisation de la vie politique en France, je vais y venir, mais je voudrais que Philippe Faureau réagisse.
Oui.
Est-ce que vous avez dit, concernant Mélenchon,
oui.
Est-ce que selon vous, il coche beaucoup de cases?
J'utilise le mot fascisme ou fasciste et antifasciste, puisque les deux sont liés, avec beaucoup de prudence.
Je crois que vous avez raison.
Je pense qu'il y a dans Jean-Luc Mélenchon et LFI, je n'utiliserai pas le mot fascisme. Il y a un radicalisme, sans doute. Il y a une volonté révolutionnaire. Certes, le mot révolution est lui-même extrêmement polymorphe. Les fascistes revendiquent le mot révolution. Le bolchevisme le réclame
art,
aussi.
Oui.
Puis ensuite, toute la tradition républicaine française récupère aussi le mot révolution. Bon. Donc, concernant LFI et Mélenchon, il me semble qu'ils sont en rupture avec les codes traditionnels de la démocratie française et parlementaire. Ils ont donc cette radicalité, ils ont donc cet héritage d'une révolution et... effectivement, il peut y avoir aussi un langage extrêmement dur, violent, vis-à-vis de l'adversaire. Et puis, bon, je crois qu'on en reparlera aussi, même par rapport même à certains éléments de la presse française.
Justement,
ah,
vous parliez de culte du chef, le rapport aux médias aussi.
Oui.
Ça, chez la France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon, il est vrai qu'on peut se poser des questions tout de même.
On a des réponses, franchement.
Je pose la question à Philippe Faureau.
Non, mais qui est un culte du chef, oui.
Cela dit, ça existe dans d'autres mouvances politiques.
Oui, rappelons quand même que justement le mot fasciste a été un des mots les plus utilisés dans notre vie publique. Je rappelle quand même que le général de Gaulle, en 1958...
Se faisait traiter aussi de
fasciste. Bon, aujourd'hui, on est un peu surpris. Sans doute aussi que dans les années 30, c'était un mot qui a été extrêmement utilisé et que les historiens aujourd'hui, en tout cas une partie d'entre eux, utilisent avec plus de prudence. C'est pour ça que je réitère un peu ma position par rapport à Jean-Luc Mélenchon et les filles. Je n'utilise pas le mot fascisme que je réserve finalement pour des groupes qui... correspondent pleinement à des groupuscules qui se reconnaissent dans les idéaux
qui parfois s'en revendiquent
hein. Et qui s'en revendiquent, mais qui se représentent très peu aux élections et qui ne sont pas élus de toute manière. Et, mais par contre, je pense qu'à cette radicalité, alors la radicalité peut mener à la violence. Effectivement. Et,
bah alors, on l'a constaté.
Et donc, effectivement, notre vie publique est tendue, ce n'est pas la première fois. Les années 30 étaient extrêmement violentes. Les années 60-70 ont été extrêmement violentes. Et donc, j'ai l'impression qu'on revient un peu sur certaines pratiques qui me semble ne pas exister, je parle sous votre contrôle, par exemple, dans les années 90.
Ouais. Juste un mot par rapport à ça. Dites-moi si dans les 16 années que vous nous citez, s'il y avait un parti politique qui s'associait comme Mélenchon le fait, et comme il le répète, avec un groupuscule qu'on peut, certes, qui se qualifie d'antifasciste, mais qui est un groupe révolutionnaire. Est-ce qu'il a existé un parti politique présent à l'Assemblée nationale qui était dans cette
alors,
configuration?
Alors pour moi non, mais Philippe va pouvoir répondre. En revanche, il y avait des intellectuels qui ne cachaient pas leur sympathie pour la bande à Bader, pour les Brigades Rouges,
oui, mais c'était
ou
pas
en
un
France
parti
pour
politique.
Action directe. Mais parti politique, je ne crois pas.
Oui, alors si on affinait, on pourrait estimer par exemple que à la grande époque du Parti communiste, il y avait quand même des nervis qui utilisaient la violence. À l'époque de la stalinisation du parti, c'était quand même extrêmement violent. Le poujadisme des années 50 utilise aussi la violence politique et ils ont eu un succès électoral en 1956. Il y a également eu des études sur la violence de certains groupes liés aux formations gaullistes au moment de 58, au moment de 68, etc. Par exemple, oui, et même encore un peu dans les années 70, où il y a eu, je dirais, une violence. Enfin, effectivement, ce n'est pas extrêmement courant. Le Parti socialiste n'avait pas de nervis à proprement parler. Il y avait des gorilles peut-être qui protégeaient les couleurs d'affiche quand on pouvait en coller. L'UDF ne me semble pas quelque
chose. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas le souvenir, moi, de partis politiques en France qui se disaient sympathisants, qui étaient en sympathie avec Action Directe. Ça, je n'ai pas connu. Hein,
non. J'ai pas souvenir.
C'est une identité de Mélenchon, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, on peut le dire puisque lui s'en glorifie. Donc, je vois pas.
Alors, il faut voir aussi la part de provocation, effectivement, de radicalisation du discours politique qu'il y a derrière pour faire monter, aller dans la surenchère. Alors, justement, j'en viens à la question que j'allais vous poser, parce que cette tragique affaire de la mort du jeune Quentin de Ranque et les réactions qui ont suivi renchérissent la polarisation du débat politique en France, qui donne l'impression qu'il y a essentiellement aujourd'hui deux extrêmes de part et d'autre de l'échiquier politique. Et puis l'entre-deux, on est de plus en plus fou, et puis on a l'impression qu'il a beaucoup de mal à endiguer cette évolution. Alors est-ce que ce n'est pas inquiétant, notamment en vue de la présidentielle de 2027, Monique Iborra?
Oui, bien sûr, c'est très inquiétant. C'est évident que c'est très inquiétant, mais là on pourrait peut-être aussi parler de la position plus que floue du Parti Socialiste, quand même, qui est a priori un parti de gouvernement. On pourrait aussi parler du Bloc central, où chacun, aujourd'hui en tout cas, une petite écurie, des écuries qui pensent surtout à l'élection présidentielle, pour le moment en tout cas.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est la course pour se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Quoi.
Oui, mais comme s'il y avait...
En se disant je peux gagner.
Comme s'il y avait une fatalité finalement.
Oui.
Et que donc, c'est très inquiétant de ce point de vue-là. Passons les élections municipales, on va voir comment ça va se passer.
Oui.
Mais à partir de là, il faudrait en effet revenir à des partis de gouvernement. Alors, il y a la social-démocratie, on en parle beaucoup, Hollande, je ne sais pas s'il l'a prononcé, parce que je crois qu'il a dépassé ça un peu aussi. Moi, je considère que la social-démocratie, ce sera plus adapté à l'époque que nous vivons. À cette époque-là, la social-démocratie, oui, d'ailleurs, qui n'a pas vraiment marché, même sous Hollande, alors qu'ils voulaient vraiment... Ah,
c'est plus germanique ou scandinave, la social-démocratie.
Non, et puis c'est un échec. Globalement, c'est un échec. Donc, si on repartait uniquement là-dessus, ben, on ferait quand même du... on n'avancerait pas vraiment. Et moi, je considère qu'on a plus besoin de réformes que d'idéologies, surtout que les idéologies, elles sont vraiment à géométrie variable. Hein. Donc, si on n'a pas, en effet, un nouveau projet et qui ne soit pas à nouveau l'alternance droite-gauche, réellement, si on retombe dans l'alternance classique droite-gauche, eh bien, on recommencera à ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire, finalement, des partis politiques qui se situent aux extrêmes, de manière à... Parce que, de toute façon, ce que les gens souhaitent, je crois qu'ils ne souhaitent pas, en effet, ils ne souhaitent ni avoir le Rassemblement National, ni avoir Mélenchon président de la République. Je crois qu'ils ne le souhaitent pas vraiment. Le problème, c'est que si on n'a pas une nouvelle offre politique, si on continue à regarder dans le rétroviseur, eh bien, évidemment, on aura ce que les gens auront voté. Je ne crois plus à ce qui s'est passé jusqu'à présent en disant on va bloquer celui-là, mais on ne va pas laisser passer celui-là. Tout ce qui a été fait, à mon avis, est obsolète.
C'est caduque aujourd'hui. Philippe Faureau.
Oui, alors, si on passe d'abord le plan français, puis le plan international, parce qu'en fait, notre débat nous oblige aussi des fois à regarder ce qui se passe à l'étranger, où nous avons des points communs. Si il y a un deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est une nouveauté absolue.
Ah oui.
C'est une nouveauté absolue, parce que ça voudrait dire que les partis de gouvernement qui ont été aux affaires depuis le début de la Ve République
de la 5e,
et depuis 81 avec une alternance assez régulière, n'y seront pas. L'équivalent finalement de LFI n'a jamais été au second tour, et l'équivalent du Rassemblement National ne l'a été qu'en 2002, dans des circonstances très particulières.
Ils l'ont presque toujours, enfin en tout cas depuis 2017.
Oui, ils l'ont toujours été. Voilà. Mais en 2002, c'était, je dirais, me semble-t-il, les souvenirs que j'en ai, plus surprenants.
Oui,
que...
bien sûr. Bah,
oui.
Ça avait été un choc parce qu'il n'y avait pas eu du tout de mue du Front National, alors qu'effectivement, comme le soulignait Mme Iborra, il y a quand même eu des évolutions où c'est de plus en plus un parti de notable quand même maintenant.
Ouais, il faut rappeler que Jean-Marie Le Pen avait été au second tour en 2002 avec même pas 17% des voix.
Oui, bien sûr, ça s'est joué à 300 000 voix.
C'était des circonstances très, très particulières.
Oui, oui. Et ce qu'il faut aussi constater, c'est que la situation française n'est pas unique. Parce que tout de même, dans une vieille démocratie parlementaire comme le Royaume-Uni, il y a UKIP qui monte et qui risque de remplacer plus ou moins les Tories. Vous avez quand même aux Pays-Bas, ça s'est joué à peu qu'il n'y ait pas un président, un chef de gouvernement de l'extrême droite.
Oui,
Vox en Espagne, je regardais récemment les élections régionales, il y en a d'autres d'ailleurs qui s'annoncent pour le mois de mars, gagne 4 à 6 points en Extrémadure, exemple.
Oui,
et en Italie, il y a le phénomène effectivement Mélanie. De la coalition menée par Fratelli d'Italia. Donc, et l'AFD allemande. Donc, effectivement, il faut s'interroger sur la question d'une évolution politique qui, de toute manière, en Europe, semble aller vers une radicalité de plus en plus importante et qui remet en cause les partis qui ont géré la démocratie jusque-là.
Un certain essoufflement, pourrait-on dire, de ces partis-là. Alors, plus proche dans le temps, les élections municipales, qui peuvent aussi susciter quelques craintes. Emmanuel Macron lui-même s'est dit préoccupé face à de possibles violences pendant la campagne et entre les deux tours des 15 et 22 mars. Est-ce que vous craignez comme lui que dans quelques semaines, il puisse y avoir des affrontements dans la rue entre les deux tours des municipales, voire après?
Moi, je le crains, oui. Je le crains, franchement. Quand on voit le degré de violence... moi, franchement, je le crains. Je le crains. Alors, je ne dis pas que ce sera la guerre civile, hein, mais je pense qu'on peut être, en effet, ici ou là. Et l'attitude du Parti Socialiste par rapport à ça, franchement, on n'en a pas parlé. Ils ne sont pas clairs. ils ne sont pas clairs sur le sujet. Je ne sais plus ce que vous en pensez, vous. Au début, moi, je pensais qu'en effet, Hollande le disant, mais comme il est minoritaire, ça n'engage que lui ou presque.
Vous parlez de la direction du Parti Socialiste actuel.
Oui, mais en même temps, vous avez une trentaine de villes aujourd'hui où il y a déjà ce que, soi-disant, ils ne voulaient pas faire. Et que d'autre part, si on a un résultat dans certaines villes, Lyon par exemple, ou ailleurs.
Marseille.
Si on a, Marseille, n'en parlons pas. Si on a justement la preuve que finalement ce qui avait été dit n'est pas tenu, on risque d'avoir des réactions très vives, en fait, honnêtement. Alors, ils ne sont pas les seuls en cause. Moi, je pense que il faudra y faire très attention, quoi.
Philippe Faureau, est-ce que vous êtes inquiet autant que les Monique Iborra?
Pour les municipales, je dois avouer ne pas avoir d'idée arrêtée pour les municipales qui s'annoncent pour le mois prochain. Je suis plus inquiet peut-être pour 27.
Oui,
pour la présidentielle, où là, je crains encore plus de tensions.
Parce que les municipales, il faudra regarder vraiment dans chaque ville.
Oui.
Les situations, c'est un peu compliqué. Mais
oui, bien sûr.
Bon, 27, là, ce sera beaucoup plus direct.
Oh, dans les grandes villes, ce n'est pas compliqué.
Oui,
hein.
Oui.
Déjà, vous les voyez arriver.
Il faudra les regarder toutes, mais bon.
Ce qui se passe aussi...
En tout cas, Emmanuel Macron, lui, s'est dit inquiet.
Ce qui se passe aussi, c'est peut-être une recomposition du paysage politique qui a commencé depuis longtemps. C'est-à-dire que finalement, on évoquait le Parti Socialiste. Mais le Parti Socialiste, effectivement, si ça ne tenait, je dirais, qu'à lui, s'il pouvait se passer de LFI, je pense qu'il le ferait. Mais il est quand même contraint sur le plan électoral. Ou il garde son âme, si j'ose dire, soit il accepte effectivement des compromis, lesquels nous verrons bien entre les deux tours, mais il est un peu condamné à cela. Mais inversement, vous avez il faut réfléchir sur les mois à venir, sur cette fameuse union des droites. Il n'est pas interdit de penser qu'il puisse y avoir, ici ou là, des perspectives d'union des droites, puisque... il y aurait eu fusion PS-LFI. Alors là aussi, ça fracture beaucoup. Parce que dans le camp de, je dirais, la droite républicaine, certains ne veulent pas en entendre parler. Comme certains socialistes ne veulent pas entendre parler, et dans notre région, c'est le cas de Mme Delga, de se compromettre avec LFI. Est-ce que, avec le recul, l'initiative d'Éric Ciotti de rejoindre avec son parti
n'ouvre
pas des perspectives qui vont permettre à d'autres de s'engouffrer. Bref.
Alors d'autant plus maintenant que la France insoumise est classée à l'extrême gauche.
Oui.
Donc ceux qui s'allieraient avec elle, à droite, on pourrait dire, vous voyez, vous alliez à l'extrême gauche.
Oui.
Pourquoi nous, on ne s'allierait pas à l'extrême droite?
Je voudrais peut-être aussi quand même préciser, il me semble qu'il faut se méfier aussi des effets d'annonce et de côté bateleur, parce que, soyons clairs, si le Rassemblement national est aux yeux de certains fascisants, alors il faut l'interdire. Or, oui, ça n'est pas question. De même, LFI, si on estime qu'ils sont totalement hors de l'arc républicain
et qu'ils prennent la violence,
alors dans ces cas-là, mais on ne le fera pas.
Mais vous savez, il y en a qui le demandent, hein, quand même.
Oui, bien sûr, il y en a qui le demandent.
À mon avis, ça
ne se fera pas.
Mais oui, mais parce qu'ils ont l'immunité d'un parti politique. En quoi c'est malhonnête? En quoi c'est préoccupant? Que deviennent les partis politiques? Que deviennent les partis politiques? Alors, franchement, que voulez-vous qu'en pensent les gens, finalement?
Alors,
les citoyens.
Oui, vous parlez des gens et des citoyens. N'oublions pas tout de même que, quelles que soient les alliances qui pourraient être nouées au second tour, je ne sais pas, à gauche, entre le PS et les filles, à droite, entre DLR et certains gens de Reconquête ou du RN, c'est quand même les électeurs qui décident à la fin.
Oui, bien sûr.
Et certains pourraient décider de même. Moi, je refuse de voter... pour des gens avec lesquels je ne veux rien avoir à faire.
Oui, en dehors des consignes des formations politiques, évidemment que dans l'isoloir, vous aurez des personnes qui feront eux-mêmes soit la fusion ou qui la rejetteront.
On espère. Oui. Mais les droites n'ont pas dit grand-chose sur le sujet. Le problème, c'est que le Parti Socialiste, lui, a dit... et qu'il revient dessus. Bruno Retailleau
a parlé de LFI hors du cercle républicain.
De l'arc républicain,
excusez-moi. Ça me paraît assez exagéré et ça ne va pas aboutir à grand-chose.
Oui, alors il y aura un test qui sera intéressant, plutôt à droite, là, c'est à Paris. Qu'est-ce qui va se passer au second tour entre Rachida Dati et Sarah Knafo? Parce que Rachida Dati aura besoin des voix des gens qui auront voté pour Sarah Knafo pour remporter mairie.
Les citoyens qui nous entendent, qui nous écoutent, qui écoutent les politiques, pas nous.
Nous aussi.
Mais que voulez-vous qu'ils pensent? Que voulez-vous qu'ils pensent si finalement c'est l'élection, c'est le bénéfice électoraliste qui compte?
Mais justement, peut-être qu'eux tranchent dans un autre sens.
Taisons-nous et ne disons pas « Ah ben moi, cela, c'est fini, on ne peut plus en entendre parler et quand même faire le contraire. Vous imaginez ce que les gens peuvent penser quand même. Quand ils ne viennent plus voter, on s'étonne.
Alors si la conséquence, c'est qu'ils ne votent plus, ça c'est plus grave, effectivement. Bon, pour l'instant, la dissolution des groupes d'action violentes tels qu'ils ont été présentés, ça n'a pas été prononcé. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est le moment de faire la pause dans cette émission. Elle sera courte comme d'habitude. Retour à l'antenne dans une vingtaine de secondes. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour donc à l'antenne en compagnie des deux invités de cette émission, l'ex-députée Monique Iborra et l'historien universitaire Philippe Faureau. Jean-Luc Mélenchon, on va encore parler de lui, il est très actif ces temps-ci sur la scène médiatique. Et lundi, lors d'une conférence de presse organisée par la France Insoumise, il a annoncé qu'en cas de victoire à la présidentielle de 2027, il ferait adopter une loi pour briser les monopoles médiatiques. Il a visé très explicitement les groupes de presse détenus par Vincent Bolloré, qu'il promet, je le cite là, de vendre à la découpe, voire de confisquer. Quelle est votre réaction à cette annonce du leader de la France Insoumise, qui fait suite, rappelons-le, à la mise à mort de Quentin Derenc, pour laquelle le parti de Jean-Luc Mélenchon a été montré du doigt en raison de sa proximité avec Raphaël Arnaud et la Jeune Garde? Philippe Faureau. On revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur la liberté de la presse sous certains régimes.
Je vais vous parler, j'espère, avec franchise. Je n'y crois guère. Parce que d'abord, ça suppose qu'il gagne les élections de 27.
Ça, c'est la première inconnue.
Deuxième inconnue, y a-t-il une majorité parlementaire qui va suivre? Et puis ensuite, quand même, confiscation de biens privés... je sens venir la consultation du Conseil constitutionnel, des actions en justice. Enfin bref, si vous voulez, je pense quand même qu'entre l'effet d'estrade et la réalité de ce qui peut se passer, ça me semble extrêmement complexe. Et inversement, je signale que nos auditeurs et auditrices l'ont sans doute entendu, c'est que certains membres du monde politique critiquent par contre le service public, qui lui serait franchement à gauche, semble-t-il.
En tout cas, on critique son manque de pluralisme.
Donc en fait, on s'en prend régulièrement aux médias, c'est assez classique.
C'est pas nouveau, ça.
Oui, il y a 70 ans, c'était plutôt la presse écrite. Mais si vous voulez, cette déclaration, il me semble que j'attendrai avec beaucoup de prudence et je n'y crois guère.
Monique Iborra.
Cette déclaration, c'est pour conforter son électorat. C'est pour dire, vous voyez, moi je serais capable, parce que je lutte, je suis un démocrate et que la presse ne l'est pas. Il a même parlé de complot en ce moment.
Il parle de médias inquisiteurs.
Médias inquisiteurs, il parle de complot. Finalement, tout a été monté pour que finalement on le détruise. C'est la victime. Vous savez, c'est pas la première fois qu'il utilise peut-être aussi violemment. Mais par contre, moi je reste, si c'est lui qui venait au gouvernement, je crois qu'on verrait des choses, peut-être, alors ça ne marcherait pas longtemps, je suis bien d'accord, mais on verrait des choses quand même qu'on ne soupçonne pas forcément.
Vous avez l'air méfiante quand même.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Je constate aussi, Eric, que à propos de l'Italie, il y avait un débat il y a maintenant une trentaine d'années, et même il y a moins de temps, à propos des médias Berlusconi. L'Empire Berlusconi, etc. Au final, quand la gauche, qui pourtant stipendiait, critiquait énormément ces médias, quand elle a pu revenir au pouvoir, en 2006 par exemple, elle n'y a pas touché. C'est-à-dire que cette affaire est quand même beaucoup plus compliquée qu'une confiscation, comme on pourrait le croire. Donc en Italie, ça n'a guère bougé.
Oui. Alors une chose quand même, parce que ce qu'a dit Mélenchon là, renvoie à ce qui se dit depuis des années, c'est-à-dire qu'il y aurait des monopoles dans les médias qui auraient été constitués par des milliardaires. Alors, aujourd'hui on parle beaucoup de Vincent Bolloré, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. Est-ce que vous aussi, vous voyez ça? Est-ce que ça vous paraît dangereux? Alors sans aller jusqu'à ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait un peu plus avoir à l'œil et peut-être casser? Monique Iborra.
Enfin, casser, je ne sais pas si on peut casser ça. Je pense que même si on le voulait...
En tout cas, est-ce qu'on peut le regretter? Est-ce qu'on peut...
Mais écoutez, moi, je crois que
c'est gênant.
Je crois quand même que les journalistes, surtout les journalistes des grandes chaînes, les journalistes ceux qui interviennent au niveau national, ont quand même des marges de manœuvre importantes. Dans les comités de rédaction, dans le... Et je crois que les actionnaires, évidemment, qui peuvent avoir une option. Mais après, les journalistes, c'est eux qui font la ligne éditoriale quand même. Hein. Mais par contre, il y a des journalistes qui font de la politique. Ça, c'est clair.
Qui sont militants.
Et qui sont militants. Dans le secteur public, on ne devrait pas en avoir beaucoup, mais il y en a quand même.
Il pourrait y en avoir, mais il faudrait que ce soit équilibré.
On peut le dire. Après, il y a de la presse d'opinion qui se déclare comme presse d'opinion.
Là, c'est clair.
C'est clair. Il y en a d'autres qui sont d'opinion et qui ne le déclarent pas. Et c'est plus gênant. C'est plus gênant parce que c'est moins honnête, à mon avis. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour les journalistes en France, pour le moment, quant à leur liberté d'intervention. Pas trop de soucis.
Philippe Faureau, vous êtes d'accord?
Alors, sur ce débat du monopole, c'est en fait un très vieux débat.
Oui.
C'est un très vieux débat. Ne remontons pas jusqu'au débat qui avait secoué la Chambre des députés sous la Restauration à propos de la liberté de presse. Mais vous savez, dans les années 30, on reprochait aux puissances d'argent d'avoir des monopoles de presse écrites à l'époque, véritablement. Sous la 4ème République, par exemple, on s'est aperçu que le général de Gaulle et le RPF étaient très peu présents dans les reportages de la radio parce que volontairement, on voulait éviter de leur donner trop de place. Rappelons-nous aussi le débat dans les années 60, le général de Gaulle disant lui-même, la presse écrite est
contre moi, j'ai ma télé.
J'ai la télévision. Et donc on disait, la presse est aux ordres. Le président Giscard d'Estaing avait quand même commencé une libéralisation qui sera ensuite prolongée dans les années 81, après avec les radios libres, etc. Mais je me souviens, étudiant, on reprochait à certains médias d'être inféodés à l'Élysée à l'époque où François Mitterrand y était. En fait, la question du monopole, elle se pose sur le très long terme de notre histoire nationale. Mais il me semble que ce qui a changé les choses, plus que la question du monopole ou de la diversité, ce sont les réseaux sociaux. Parce que je crois que les réseaux sociaux, c'est un élément de formation de l'opinion publique.
Combien de personnes aujourd'hui vous disent, moi je ne lis plus la presse,
oui.
je ne vais plus sur les médias mainstream, comme on dit, pour m'informer, je vais sur les réseaux sociaux. Et il y a des influenceurs, il y a des chaînes YouTube, voilà. Bon, moi, je ne connais pas très bien,
oui.
Mais on sait tous que ça existe. Et il suffit d'aller voir. Parfois, ce sont des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés.
Absolument.
Bien sûr.
Ça la grande nouveauté par rapport, je dirais, au rapport à l'information. Ce n'est plus notre presse écrite. Alors peut-être que nous appartenons à, si j'ose dire, une génération qui encore aime lire la presse écrite. Mais par contre, les réseaux sociaux, aujourd'hui, vont faire en partie l'opinion. Et Autre révolution dont il faudra se méfier, permettez-moi de le signaler aussi, c'est que sera l'information avec l'intelligence artificielle dans quelques années. Est-ce que le monopole ne viendra pas aussi du rôle de l'intelligence artificielle, puisque vous pourrez créer, si j'ose dire, des fausses photos, des faux articles.
Oui, c'est fait.
Et ça détruit quelqu'un ou une idée. Et là, je pense que nous sommes à la veille d'une révolution où le monopole sera dépassé en tant que tel.
Alors, je reviens à Jean-Luc Mélenchon, là, parce que à cette fameuse conférence de presse, il avait convié uniquement des médias numériques alternatifs. Hein, c'est le terme qui a été employé. Il avait exclu l'Agence France-Presse, TF1, Libération aussi. Ils n'étaient pas convoqués. Le Monde. Et bon, une ostracisation qui a été dénoncée par Reporters sans frontières. Tout de même, quel signe vous voyez dans cette initiative du chef des Insoumis qui se défie manifestement des fameux médias mainstream dont je viens de parler, évoquant même, je reprends l'expression, des médias inquisiteurs. Monique Iborra.
Oui, je crois que c'est les outrances. Honnêtement, les outrances de Mélenchon, sa manière d'être, sa manière qui devient insupportable, il faut bien le dire. Mais j'en donne pas une signification extraordinaire.
Pour vous, ça relève plutôt de la provocation
Oui, de la provocation. Et puis,
pour faire parler de lui.
Encore une fois, dire, vous voyez, moi, c'est moi, je fais des choix.
Je parce choisis que mes médias, je choisis
suis
mes
le
journalistes.
Chef. C'est fatigant même, c'est fatigant. Et moi, j'accorde beaucoup plus d'importance au fait qu'il s'associe avec des groupuscules violents que ce genre de manifestation.
Philippe Faureau,
il me semble qu'il y a une logique finalement dans cette attitude, parce que une grande partie du discours de Jean-Luc Mélenchon est quand même contre l'establishment,
oui,
pour reprendre
le système,
mot,
l'establishment,
le système, la caste comme... politique, et donc...
Pourtant, lui, il est bien placé pour en parler,
oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, il a été 15 ans au Sénat, carrière, 15 ans au Parlement européen.
Mais il a toujours fait de la politique.
Vous avez raison. Mais le discours contre la caste touche aussi, donc, les médias. Et donc, on peut y voir, si j'ose dire, une certaine logique que, personnellement, je trouve désagréable et contraire, je dirais, à la bonne marche d'une démocratie. Mais c'est logique puisque dans cette caste, vous avez les médias. Vous avez les médias établis ou la presse établie, y compris Libération, qui pourtant ne passe pas pour être néo-fasciste.
Exactement.
Et donc, je pense que c'est dans une logique de lutte contre la caste des établis.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'alimenter le complotisme ? Parce que finalement, ce qu'il nous dit là, ces gens-là sont vendus. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Monique Iborra et Philippe Faureau ensuite.
Oui, mais oui, bien sûr, il fait feu de tout bois de toute façon. Et puis Mélenchon, plus on parle de lui, plus il est content de toute manière. Et s'il avait un discours modéré, il se serait plus Mélenchon. Donc. Encore une fois, je trouve qu'il est là dans le rôle qu'il se fait. Il est particulièrement injuste parce qu'on le voit quand même aussi beaucoup sur le service public. Il y a des émissions qui lui sont consacrées, réellement. Donc,
les dirigeants de la France Insoumise sont invités, par exemple, régulièrement sur Europe 1 ou CNews.
En prenant les nouveaux, parce qu'il les appelle les nouveaux,
oui.
il se présente comme celui qui... peut amener de la nouveauté. Et des choses qui sont en effet contre l'établissement d'une manière générale, mais qui en même temps, vous savez, quand il a fait sa campagne et qu'il se faisait, il intervenait à plusieurs endroits en même temps, si vous voulez, il y avait aussi cette volonté de dire, moi, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est nouveau, c'est moi. Et là, il voulait l'exprimer de cette manière, c'était les nouveaux. Donc, c'était normal pour lui qu'il invoque, qu'il demande aux nouveaux de venir discuter avec lui.
Oui, alors il parle de médias numériques alternatifs. Comprendre, ils offrent une alternative aux médias officiels. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et ce qui veut dire que sur ces fameux médias, on aurait de la vraie information ou même de la réinformation. Philippe Faureau.
Oui, alors vous avez, Eric, utilisé le mot complotisme. De toute manière, dans notre histoire politique, les groupes extrêmes sont souvent dans le complotisme, de toute manière. C'est un des éléments...
Ben à l'époque, c'était le complot judéo-maçonnique.
Voilà,
le Rassemblement national, il y est aussi. Hein.
Oui, oui, il y a un phénomène de complotisme, effectivement, et qui, justement... vous allez me croire un peu obsédé, mais enfin, par le biais des réseaux sociaux, gagne une grande partie de l'opinion publique.
Alors que là, il n'y a aucun contrôle, évidemment, sur les réseaux sociaux.
Absolument. Alors là, quant aux médias alternatifs, si je faisais un peu de l'humour à dessous, si ces médias alternatifs sont les seuls, ils vont devenir monopoles. C'est-à-dire qu'en fait, les médias alternatifs... je crois que un des fondements quand même de notre démocratie, qu'on le veuille et que ça ne plaise pas ou que ça plaise, c'est quand même la pluralité des médias, effectivement. On n'est pas obligé d'aller voir CNews si on ne veut pas. On n'est pas obligé d'écouter Europe 1, mais on ne doit pas les interdire.
Oui, parce que quand on parle de Bolloré qui aura un monopole, attendez, il n'a pas quand même tous les médias en France.
Je crois qu'il y a une diversité. Enfin, les Français, je les crois suffisamment intelligents pour aller piocher ailleurs. Monopole me semble de toute manière, là aussi, relevé par moment un peu du complot.
Vous êtes d'accord, Monique Iborak, ce que vient de dire Philippe Faure?
Oui, tout à fait.
Oui, alors pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, la question que vous vous posez aussi, c'est est-ce que ça ne va pas encore dans le sens d'une radicalisation accrue, surtout après ce qui vient de se passer à Lyon et la mort du jeune Quentin Derenc, qu'on pourrait se dire, ce serait peut-être le moment de faire profil bas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il remet une pièce dans la machine, comme on dit? Alors, je dois préciser quand même que les dirigeants des Insoumis, je crois que c'est Louis Boyard, qui a précisé que les médias alternatifs de droite, il a bien ajouté, mais pas d'extrême droite, étaient aussi les bienvenus à leur conférence de presse. Et Monique Iborra.
Oui, ben lui, quand il parle, vous savez, il ne faut pas toujours écouter ce qu'il raconte. Hein. Oui, bien sûr, c'est de la stratégie. C'est une stratégie qui fait qu'il veut conforter son électorat et il veut se positionner comme étant le seul pouvant battre le Rassemblement national. À partir de là, toute sa stratégie, il la développe. Et alors, pour battre le Front National, le Rassemblement National, qu'il considère comme étant un parti, il n'a pas dit un parti fasciste, mais d'origine fasciste, eh bien, il est le seul à pouvoir le battre. C'est tout. Et je pense qu'il pense que finalement, si c'était tous les deux face à face, eh bien, il y aurait un cordon sanitaire qui ferait que les gens voteraient pour lui. Et à mon avis, c'est là où il se trompe.
Ben aujourd'hui, tous les sondages vont dans le sens contraire. Philippe Faure.
Oui, j'avais lu le livre, vous savez, La Meute. Qui a été publié à peu près il y a un an et demi. Et effectivement, ce qui ressortait de la lecture, entre autres, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui a un réel talent, qui a une réelle culture, finalement cherche non seulement à contrôler effectivement LFI, mais à être dans une provocation assez, assez régulière parce qu'il a compris quelque chose qui me semble être assez vrai, c'est qu'il y a une partie de l'électorat qui est à la recherche d'une radicalité, quitte à déchanter assez rapidement. Et alors il faudrait peaufiner ce que je vais dire, mais vous savez, la situation en Grèce, à la suite de la crise de 2008, etc., vous aviez eu un LFI local qui était arrivé au pouvoir, mais l'expérience avait duré un an et demi à peu près. Et puis après, le fleuve était revenu dans son lit habituel et les partis de gouvernement grecs étaient revenus au pouvoir. Mais la question, effectivement, d'attirer... alors là, c'est presque, je dirais, sans doute une stratégie aussi de communication, c'est-à-dire attirer l'attention, quitte à choquer une bonne partie de l'opinion publique, mais à radicaliser ou en tout cas assurer un bloc qui permettrait l'accession au second tour l'année prochaine.
Son bloc.
Oui. Alors je ne sais pas si c'est payant, mais Manuel Bompard a annoncé, là, alors il faudra le vérifier si c'est vrai ou pas, que depuis une semaine, ils auraient eu 2500 adhésions supplémentaires à la France Insoumise.
Pourrait
les conforter dans une stratégie de la radicalité.
Ce n'est peut-être pas impossible, ça, je n'en sais strictement rien.
Oui.
Moi, j'en doute réellement, mais bon.
Oui.
Et on ne peut pas avoir accès au compte de la France Insoumise. Bon, nous, quoi qu'il en soit, Radio Présence, nous n'appartenons pas à un milliardaire. Malheureusement, diront certains. Heureusement, diront d'autres. On va donc dire que nous ne sommes pas concernés par toutes ces histoires. Il nous reste, allez, 2-3 minutes là, pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Monique Iborra, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nos auditeurs?
Eh bien, écoutez, non. C'est rare hein, que... J'ai rien, si vous voulez, dans le courant de la semaine, là j'ai pensé tout à l'heure avant de venir, il faut dire que j'étais très occupée ailleurs, il faut bien le dire, non, j'ai rien de particulier à vous dire.
Ni coup de cœur, ni coup de gueule, cela dit, ce soir vous en avez quand même
dit pas mal.
Dit quelques-uns, je crois au passage, ceux qui en ont été le sujet se reconnaîtront. Philippe Fauron, je suis sûr que vous avez... au moins un coup de cœur.
Oui, j'ai un coup de cœur et une incitation pour nos auditeurs et auditrices. C'est le film Nuremberg, avec Russell Crowe qui joue Göring. Et je conseille d'aller le voir parce qu'il y a une vraie performance d'acteur et il y a cette espèce de duel, parfois à fleur et moucheté, entre un des plus grands responsables du Reich nazi, un des plus grands criminels de guerre également, et ce psychanalyste américain qui, et ça c'est totalement historique, avait été chargé d'interroger les internés de Nuremberg. Et c'est un film où l'on voit... à la fois chez certaines de ces interrogées, ce que Hannah Arendt avait pu appeler la banalité du mal à propos d'Eichmann, et puis aussi, je dirais, les dessous d'un procès qu'on connaît tous, mais véritablement, le film nous fait pénétrer dans les cellules. Et donc, c'est un coup de cœur. J'incite les personnes à y aller.
Ce qui vous a séduit, surtout, c'est que d'un point de vue historique, apparemment, c'est...
Tout à fait. Absolument.
Ça colle vraiment.
Même dans les personnalités que l'on voit... Bon,
qui voit-on en dehors de Göring?
Alors, on voit par exemple Robert Ley, qui était un des responsables du Front du Travail, qui d'ailleurs se suicide dans sa cellule. On voit aussi un autre personnage que le grand public ne connaît pas, mais que l'on voit à intervalles réguliers, Julius Streicher, qui lui finira pendu, et qui était un des très grands propagandistes antisémites. Il avait le journal Der Stürmer, qui était... une des feuilles les plus ordurières vis-à-vis des Juifs. Et on les connaît très peu et on les voit dans le film. Mais évidemment, cela tourne autour de Göring, qui est assez plastronnant, même dans sa prison et même dans le tribunal.
Alors, je ne sais pas qui est le réalisateur de ce film.
Ah mon Dieu, j'ai oublié le nom.
Retenu, non. Parce que c'est un film qui a été tourné par qui? Par les Américains?
Il me semble, oui, tout à fait.
C'est un film américain.
Tout à fait, absolument. Mmh. Absolument. Mais malheureusement, je m'en excuse, oublier le réalisateur. Mais
bon,
allez voir.
En tout cas, il faut aller voir Nuremberg, on l'a compris. C'est la fin de cette 221e mêlée de l'info. Merci à tous les deux, merci infiniment d'en avoir été les invités et les brillants débatteurs. Merci aussi à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à tous les fidèles de la mêlée, à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.